Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Le début ce dimanche d'une visite d'État en Algérie pour le président palestinien Mahmoud Abbas, un déplacement de 3 jours. La fin ce samedi de la tournée du président français dans 3 pays du Golfe. Emmanuel Macron a annoncé à Jeddah une initiative commune de la France et de l'Arabie Saoudite en faveur du Liban. Nous y reviendrons avec David Rigoulet-Rose, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique et chercheur associé à l'IRIS. Dans un communiqué conjoint publié ce dimanche après-midi, la France et l'Arabie Saoudite soulignent la nécessité pour le gouvernement libanais de mettre en œuvre des réformes globales, en particulier l'engagement à appliquer l'accord de Taif. Coup de projecteur dans votre édition sur les difficultés rencontrées par les étudiants au Liban. Nous écouterons Salim Dakash, le recteur de l'université Saint-Joseph à Beyrouth. Le syndicat UGTT demande au président tunisien un dialogue national et une feuille de route pour sortir de l'état d'exception décrété fin juillet. Plus de 6000 militants de la centrale se sont réunis hier à Tunis. La Méditerranée est en train de devenir un cimetière froid, sans pierres tombales. Je vous en prie, arrêtons ce naufrage de civilisation. Des mots du pape François ce dimanche matin depuis l'île de Lesbos. La Coupe arabe des nations, 4 pays sont déjà qualifiés pour les quarts de finale. L'Algérie, le Maroc, l'Égypte et le pays hôte, le Qatar. L'invité de la bibliothèque de Radio Orient ce dimanche à 19h est Daniel Juré, auteur du Grand Café du Nil, un roman publié chez Orient Éditions. Il évoque le café d'Alexandrie qui a inspiré ce livre, extrait dans votre journal. Le président palestinien Mahmoud Abbas entame ce dimanche une visite d'État en Algérie, un déplacement de 3 jours. L'ambassadeur de la Palestine en Algérie indique que cette visite s'inscrit dans le but de se concerter avec le président Tebboune, le tenir informé des derniers développements de la cause palestinienne et coordonner les positions concernant la tenue du sommet arabe en Algérie en mars prochain. Le chef de l'État français Emmanuel Macron a terminé hier sa tournée express dans le Golfe en lançant une initiative pour aider le Liban. Initiative lancé avec le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, le Liban qui connaît depuis 2019 une très grave crise socio-économique. Le bilan de cette visite du chef de l'État français aux Émirats Arabes Unis, au Qatar et en Arabie Saoudite avec David Rigoulet-Rose, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique et chercheur associé à l'IRIS.
C'est une tournée effectivement express en 2 jours qui couvre 3 pays du CCG, Conseil de coopération du Golfe, dont évidemment les Émirats Arabes Unis, le Qatar et dernière étape Riyad. Il faut rappeler que la France entretient avec ces pays des relations plus ou moins étroites, très étroites avec deux d'entre eux, puisqu'il y a des accords de défense, notamment avec les Émirats Arabes Unis et le Qatar. Qui plus est, la France dispose d'une base interarmes aux Émirats Arabes Unis depuis 2009. Donc il y a évidemment ce qu'on appelle un partenariat stratégique approfondi, qui effectivement justifie ce type de déplacement, surtout dans un contexte quand même bouleversé par la question des négociations sur le nucléaire iranien, les turbulences régionales. Donc la France considère qu'elle a effectivement un rôle à jouer à sa mesure, ce qui explique la démarche effectivement du président de la République.
Le rôle de la France dans cette région, comment vous pouvez le qualifier ?
Selon les éléments de langage, la France se positionne comme une puissance d'équilibre. Elle a évidemment pas la marge de manœuvre des grandes puissances, en l'occurrence la puissance américaine, mais justement elle a l'ambition de se positionner comme honest broker, intermédiaire, facilitateur pour pouvoir parler aux divers interlocuteurs qui sont souvent en situation de tension avérée. Et donc de ce point de vue-là, effectivement, elle souhaite, c'est d'ailleurs un objectif affiché de la visite du président Macron, au premier rang des priorités, c'est favoriser la stabilité régionale, qui passe aussi par la lutte contre l'islamisme radical, et en dernier lieu par l'attractivité de la France. Mais je dirais que c'est pas le prima déterminant de la visite en question.
L'un des éléments importants de cette visite, c'est cette initiative commune pour le Liban annoncée depuis l'Arabie Saoudite.
Oui, effectivement, il y avait le souhait de sa part de trouver une option justement pour favoriser le dénouement de la crise libanaise, et ça peut passer que par Riyad, puisque Riyad a décidé de couper tous les ponts avec Beyrouth en fermant ses frontières aux importations libanaises. Et donc le souhait du président de la République, c'était d'essayer d'infléchir l'intransigeance du prince Mohammed bin Salman, d'où l'annonce effectivement qui a été faite d'une forme d'assouplissement qui a été facilitée par par l'obtention, dit-on, par Paris, de la démission du ministre Georges Corbeil, qui avait servi de prétexte justement aux tensions entre Beyrouth et Riyad. Donc il y avait de la part du président Macron, effectivement, qui a fait du Liban une affaire personnelle, la nécessité de parler avec Mohamed bin Salman. Et puis sur le fond, de toute façon, il l'a dit de manière explicite, l'Arabie Saoudite est le poids lourd régional du Conseil de coopération du Golfe. Donc, de toute façon, il pouvait pas ne pas passer par Riyad. Ça aurait d'ailleurs été considéré comme un affront. Donc, c'était une étape logique et nécessaire en termes géopolitiques pour le président de la République. Et
cette initiative commune pour le Liban est susceptible d'aider le pays du Cèdre qui fait face à une crise économique sans précédent aujourd'hui?
En tout cas, c'est l'objectif du président de la République parce que de toute façon, la question des financements des pétromonarchies auprès de Beyrouth est une question évidemment centrale. C'est aussi l'assèchement de ces financements qui a accéléré l'effondrement de l'économie libanaise. Et puis, il y a la question du financement de l'armée libanaise, qui est le dernier pilier, on va dire, de l'État libanais. Et c'est justement aussi la question de ce financement qui est stratégique, de l'ordre de 3 milliards de dollars. On considère que l'État libanais ne peut pas être sauvé si il n'y a pas le maintien d'une force crédible en matière d'armée libanaise, qui est l'institution la moins confessionnalisée, on va dire, du pays. Donc évidemment, tout ça rentre en ligne de compte dans le calcul stratégique du président Macron.
David Rigoulet-Rose, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique et chercheur associé à l'IRIS. Et dans un communiqué conjoint publié ce dimanche après-midi, la France et l'Arabie Saoudite indiquent qu'ils ont souligné la nécessité pour le gouvernement libanais de mettre en œuvre des réformes globales, en particulier l'engagement à appliquer l'accord de Taif qui garantit l'unité nationale et la paix civile au Liban, selon les mots de l'Élysée. Ces réformes, ajoute le communiqué, doivent notamment porter sur les secteurs de la finance, de l'énergie, de la lutte contre la corruption et du contrôle des frontières. Paris et Riyad disent avoir convenu de travailler avec le Liban afin de garantir la mise en œuvre de ces mesures. Les deux parties ont souligné que les armes devaient strictement être restreintes aux institutions légales de l'État et que le Liban ne devait être la source d'aucun acte terroriste qui déstabilise la région ou d'exportation de stupéfiants. Elles ont souligné l'importance du renforcement du rôle des forces armées libanaises dans le maintien de la sécurité et de la stabilité du Liban. L'invité de rencontre ce dimanche à 23h est Salim Dakash, recteur de l'université Saint-Joseph à Beyrouth. Il évoque les difficultés rencontrées par les étudiants au Liban. Salim Dakash.
Cette crise actuellement touche pas mal, disons, tout ce qui est carburant, tout ce qui est, parce que les prix ont flambé, de telle manière que, disons, il y a des étudiants qui ont des difficultés pour arriver à l'université, mais aussi les enseignants qui n'ont pas toujours, disons, le moyen, parce que ces carburants sont devenus si chers qu'il est difficile, avec les salaires actuels, qu'on est en train d'assurer aux enseignants pour pouvoir venir à l'université.
De nombreux Libanais ont quitté le Liban ces derniers mois en quête d'un avenir meilleur. Est-ce que vous êtes confronté à ces départs aussi au sein de l'université? Est-ce que des enseignants veulent partir? Est-ce que des étudiants cherchent à prendre le chemin de l'exil?
Oui, tout à fait. Il y a, bien sûr, disons, l'intention existe chez certains qui patientent peut-être un peu, espérant que la situation va s'améliorer un peu. Mais l'intention est là. Nous avons déjà perdu à l'hôpital une centaine d'infirmières qui ont quitté le pays pour la Belgique surtout et pour la France, peut-être certains pour l'Irak ou d'autres pays du Golfe. Donc il y a eu pas mal de médecins aussi qui ont quitté ou bien qui travaillent entre maintenant Paris et Beyrouth, ou bien Dubaï et Beyrouth. Il y a certains aussi qui ont quitté pour de bon et qui se sont installés ailleurs. Sur les 400 médecins que nous avons à l'Hôtel Dieu de France, et Beyrouth, il y a, je pense, autour de 25 à 30, ce qui est encore, disons, acceptable, qui ont quitté. Mais chez les étudiants aussi, c'est la même chose. Il y a cette année sûrement 25 à 30% de notre clientèle ordinaire qui a préféré aller à l'extérieur du pays, vers la France ou bien le Canada ou les États-Unis ou la Suisse ou bien la Belgique même pour les étudiants de médecine. Et même, disons, pour la Belgique, il y a eu des médecins qui ont quitté, mais aussi des étudiants en médecine en cours d'études en troisième année, quatrième année ou septième année, ou bien des internes qui ont quitté pour la Belgique. Nous avons pu quand même, disons, maintenir, surtout en première année, un nombre, au moins, disons, égal aux années passées, sinon plus, qui sont venus chez nous, parce que, d'une part, nous avons dit clairement que l'université reprend, et nous avons repris le 1er septembre, donc on est maintenant, disons, à la fin du premier semestre d'études, et nous avons fonctionné normalement depuis le 1er septembre malgré tous les problèmes qui se sont posés. Moi, j'ai dit aux gens qui hésitaient à reprendre, non, il nous faut reprendre pour donner un signe, un bon signe fort aux étudiants que l'Université Saint-Joseph de Beyrouth continue sa mission, continue ce qu'elle a à faire avec les étudiants afin qu'ils restent sur place, qu'ils ne soient pas, disons, en plus de la crise dans laquelle en plus de cela, l'université, soit aussi touchée par ce marasme et aussi par cette hésitation, si je peux dire. Mais l'intention, c'est sûr, elle est claire. Il y a pas mal d'étudiants, peut-être aussi, qui sont venus chez nous, pour étudier avec l'intention de quitter après parce que ils savent que l'université offre des diplômes de bonne facture et ces diplômes peuvent, disons, les aider à quitter pour d'autres pays.
Salim Nakache, recteur de l'université Saint-Joseph à Beyrouth. Il est l'invité de rencontre ce dimanche à 23h, une émission présentée par Loïc Barrière. En Tunisie, la centrale syndicale UGTT demande un dialogue national et une feuille de route pour sortir de l'état d'exception décrété fin juillet par le président Kais Saied. Un rassemblement a réuni hier à Tunis plus de 6000 militants. Le secrétaire général de l'UGTT, Noureddine Taghoubi, a estimé dans son discours que toutes les indications alertaient contre un danger imminent dû à un échec politique et à l'absence d'un programme pour sortir le pays du tunnel qu'il traverse. Il s'agissait pour l'UGTT de commémorer le 69e anniversaire de l'assassinat en 1952 du fondateur du syndicat Farhat Ached. La Méditerranée est en train de devenir un cimetière froid, sans pierres tombales. Je vous en prie, arrêtons ce naufrage de civilisation. Des mots du pape François ce dimanche matin depuis l'île de Lesbos. Des propos prononcés devant une quarantaine d'exilés. Un déplacement 5 ans après sa première visite sur cette île grecque emblématique de la crise migratoire. Washington et ses alliés se disent préoccupés par les exécutions sommaires d'anciens membres des forces de sécurité afghanes par le régime taliban. Des exécutions révélées par des institutions de défense des droits humains. Ces pays ont demandé l'ouverture rapide d'enquêtes. Cette semaine, Human Rights Watch a publié un rapport qui, selon elle, documente des meurtres ou des disparitions dont ont été victimes 47 anciens membres des forces nationales de sécurité afghanes qui se sont rendus ou étaient détenus par les forces talibanes entre le 15 août et le 31 octobre dernier. Quelles mesures face à la cinquième vague du Covid-19 en France? Un nouveau conseil de défense sanitaire se tient ce lundi à l'Élysée. Il sera notamment question de la vaccination des enfants de moins de 12 ans et de la menace du variant Omicron. La Coupe arabe des nations, 4 pays sont déjà qualifiés pour les quarts de finale, l'Algérie, le Maroc, l'Égypte et le pays hôte, le Qatar. Pour le dernier match du groupe D de la deuxième journée, l'Égypte a battu le Soudan avec un score de 5-0. L'invité de la bibliothèque de Radio Orient ce dimanche à 19h est Daniel Juré, auteur du Grand Café du Nil, un roman publié chez Orient Éditions. Il évoque le café d'Alexandrie qui a inspiré ce livre extrait.
C'est un café dont l'enseigne n'a pas changé depuis même avant-guerre. Il y avait, je ne sais pas, parce que je ne suis pas retourné en Égypte depuis 2008, à cause évidemment des événements qui éloignaient le tourisme. Mon premier voyage en Égypte, c'était en 1982. Il y a 40 ans. Donc, ce grand café du Nil, il n'a pas changé. Et aux dernières nouvelles, je l'ai photographié, comme vous le voyez, sur la couverture. Et c'est un endroit, alors, comme ça se faisait autrefois, très haut de plafond, avec des vitres partout. Et il y a absolument... quasiment que des autochtones là, des gens en turban, et qui nous accueillaient évidemment, parce que j'y suis allé très très souvent, quoi. Et je trouvais là une sorte de paix.
Le café, c'est un lieu de l'entre-deux, c'est un lieu de passage. On y croise finalement toute la ville. De nombreux écrivains et artistes aussi y ont leurs habitudes. C'est une source d'inspiration. Il y flotte un parfum de nostalgie. Finalement, ce café, il est vieux et il n'a pas changé. À Lisbonne, on visite même le café que fréquentait Pessoa. Les cafés sont des lieux qui vous sont chers ?
Oui, absolument. Mais les gens se sont toujours réunis dans les cafés. Je veux dire, oui. À Rome aussi, oui, le café, je ne me souviens plus son nom, mais où on voit une photo avec tous les écrivains de l'époque, quoi, Moravia et les autres. Oui, bien sûr, c'est le café, c'est le lieu de rencontre, c'est le premier lieu culturel. Hein.
Daniel Juré, auteur du Grand Café du Nil, un roman publié chez Orient Éditions. Il sera l'invité de la bibliothèque de Radio Orient ce dimanche à 19h, une émission préparée et présentée par Loïc Barrière. Fin de cette édition, vous êtes bien sur Radio Orient. Un très grand merci pour votre fidélité. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.